Jusqu'à l'éveil, j'entre en revue mal et bienveil, éverni que je pour nous les mal et jusqu'à l'éveil, j'entre en revue mal et bien réveille.
Concerning Chenyuezi practice, before getting into details, there's a very good book that introduced to the practice. Most of you know it. It's called Chenrezig Sadhana. Le Sadhana de Chenrezig. There's only one defect for some of you. It's in French. But hopefully, it could sometime in the future be in English. And there's also a very good document, which is the Dharma Review. This is about Chenrezig practice. It's an anthology of text from on Chenrezig practice. Bhakya Rinpoche, Denyi Rinpoche, Kensei Rinpoche, the 15th Karmapa, and His Holiness Dalai Lama. C'est une anthologie d'enseignement sur Chenrezig, publiée par la revue Dharma et rééditée par le soin de la Massengay. Non. Mais rééditée. Mais
je peux pas, en fait.
Pour.
C'était des droits pour la revue Dharma et
rééditer
ça.
Mais, mais non, mais c'est pas nécessaire. On en parlera. Dans la même forme, il y a les mêmes. Tout. Tous ces textes sont utiles et sont une base précieuse. Ce soir, nous allons continuer. Nous avons entendu hier soir Wangchen Rinpoche nous parler des Dampasum, les trois aspects, les trois volets de la pratique. Une introduction, une conclusion et un principal avec le principal lui-même, deux volets. Génération, perfection. Nous avons aussi hier entendu Wangchen Rinpoche nous parler de l'importance du maître. Et dans le sadhana, dans la pratique de Chenrezig, le maître est Chenrezig. Chenrezig est le maître. Le maître habite la présence de Chenrezig et Chenrezig est pour nous le maître. Celui qui nous guide. Donc, les deux sont indifférenciés, indissociables. Nous avons aussi choisi maintenant de nous répartir les thèmes et je vais vous parler, je vais enseigner sur la pratique du mantra. Ce qui est d'autant plus important que nous accomplissons la récitation de 100 000 mantras. Mani Boum. À combien êtes-vous arrivé? 4 400. Ce sera difficile pour la plupart d'entre vous d'arriver aux 100 000 pendant la retraite. Mais ça n'est pas un problème, parce que vous pourrez continuer après. Non seulement pourrez-vous, mais il est important et bien de le faire. La récitation du mantra a des qualités à différents niveaux. Au premier niveau, c'est une pratique d'attention. La récitation du mantra est ce que l'on nomme en tibétain un semdzin. Une pratique d'attention de l'esprit, d'attention à un support sonore, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Il peut y avoir des supports visuels, auditifs, etc., kinesthésique, dans tous les sens. Om Mani Padme Hum est susceptible d'être un support sonore et ou un support mental. Car si vous récitez dans une récitation silencieuse, une récitation du cœur, une récitation mentale, donc Om Mani Padme Hum est un support de shamatha pour pratiquer la stabilité, le calme, tranquillité. C'est très important. Ce matin, vous avez eu, c'était très bien, 3 heures de récitation. C'est bien. Et demain, vous en aurez autant. Et les jours suivants, autant. C'est pas souvent qu'on peut avoir 3 heures. Et à raison d'un quart d'heure, les 1000 mantras, si c'est fait 4000 par heure, ça ferait 12 000. Mais on n'est pas dans une compète ou une comptabilité, mais le fait d'être attentif au nombre que l'on récite oblige, encourage et oblige à la régularité. Il ne s'agit pas de faire Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, 3 fois et puis après, une continuité. Et cela demande aussi de l'énergie, du courage, dans la stabilité, dans la continuité. Om Mani Padme Hum est aussi une formule de bienveillance, une formule de bonté. Om Mani Padme Hum, I love you. Je vous aime. C'est une façon d'exprimer un amour, une compassion, une bienveillance, une réceptivité, disponibilité, une attitude altruiste, une bonté, c'est tout cela. Donc c'est une parole d'amour, mais pas d'amour au sens trivial. Parole de compassion, une parole de cœur, une parole de bodhicitta. Et donc, réciter Om Mani Padme Hum nous fait entrer dans cet état d'esprit, nous fait entrer dans cette attitude d'ouverture du cœur, d'ouverture de l'esprit, d'empathie, de compassion, bonté, bodhicitta. Om Mani Padme Hum est aussi un souhait, un souhait de bienveillance pour tous, l'expression d'un souhait du cœur positif ou d'une pensée positive. La pensée positive, quelque chose de très important. C'est ce que l'on nomme aussi les souhaits, c'est un aspect. Et le fait d'être dans une attitude de cœur et d'esprit positif, eu égard à tous, à chacun, nous prédispose à de bonnes relations et nous prédispose à être dans une attitude où l'on peut être utile aux autres. Où l'on peut aider. Donc, Omani Pemerong est ainsi le prototype, une sorte de prototype ou d'archétype de pensée positive. Pour tous, pour tous les vivants. Et c'est ainsi l'expression du cœur-esprit de Chenrezig. L'expression du cœur-esprit, de l'esprit du cœur, d'immense bonté, Chenrezig, qui a cette attitude bienveillante eu égard à tout vivant. Omani Pemerong est aussi, et particulièrement, un mantra. Un mantra, le mot mantra en sanskrit, a le sens de ce qui protège l'esprit. Ce qui protège le mental. Man, de mantra, se comprenant comme étant en relation avec manas, M-A-N. Manas qui a donné man en anglais, l'homme. Mais qui est. Manas, c'est le mental, c'est l'esprit. Mental. Et cha s'interprète comme protection, ce qui protège. Donc, Omani Pemerong, comme mantra, et protège notre esprit, protège notre mental. De quoi le protège-t-il? Il le protège des illusions et des passions. Il le protège d'abord de sa versatilité. Certaines personnes disent « Mon esprit ne s'arrête jamais. » » le bavardage de l'esprit, le discours intérieur, peut effectivement avoir tendance à ne jamais cesser. Si l'on récite Om Mani Padme Hum, et particulièrement si l'on pratique la récitation du cœur, et que l'on est habité par cette récitation, elle se substitue, cette récitation, à la distorsivité habituelle du mental, au blablabla habituel. Et c'est en ce sens qu'elle protège notre esprit de son bavardage, de son bavardage habituel. Et non seulement le mantra Om Mani Padme Hum protège-t-il ainsi l'esprit de son bavardage, mais en plus, le mantra insémine dans notre esprit des graines d'éveil. Om Mani Padme Hum, sa récitation, est une insémination de bodhicitta, une insémination de chenrezi, une insémination de bienveillance, de bonté, de non-violence. Donc, c'est là la fonction du mantra qui est à la fois protectrice, qui dissipe, écarte des l'agitation et le parasitage, le bruit de fond habituel, et y substitue une présence saine, une présence de bonté, une présence de bienveillance. Donc, la pratique des manis, c'est-à-dire de Mani Padme Hum, est une pratique d'éveil en soi. Il y a une multitude de personnes qui se sont éveillées comme des manipas. En tibétain, manipas sont des personnes qui pratiquent les manis, Om Mani Padme Hum. Il peut y avoir une mania. C'est une bonne manie. La manie des manies. Cette mania ou récitation régulière et constante du mantra est ce que l'on nomme le japa en sanskrit, récitation continuelle. Et cette récitation constante a un pouvoir intégrateur de la pratique extrêmement puissant. Surtout si l'on y associe un outil que le mala, qui amène une dimension tactile, kinesthésique, et qui constitue un rappel. Et même si l'égrenage devient automatique, c'est un rappel automatique. Très utile. Donc, à ce point, je voudrais aussi vous parler ce soir de Dom Mani Pemirong dans ses six syllabes. D'abord, il y a dans le livre un tableau avec plein de correspondances des six syllabes, très profond, c'est très utile, mais nous n'allons pas entrer dans tous ces détails ce soir. Un mantra, d'une façon générale, et Om Mani Padme Hum en particulier, est constitué de trois parties. Il y a au début Om, il y a à la fin Hum, et il y a entre les deux ce qui est généralement le nom de la déité, c'est-à-dire la qualité d'éveil particulière qui correspond à l'aspect de la déité qui est celui du mantra. Déité, nous l'avons déjà dit, a le sens d'absolu. Nous ne sommes pas dans une approche personnaliste, individualiste, monothéiste. La déité est l'expression de l'absolu ultime, transcendant la dualité, omniprésent. Cet absolu échappe aux conceptions, à tout nom, à toute forme, à toute conceptualisation. Il est indicible, ineffable, innommable, et ne peut qu'être envisagé. On ne peut que le considérer sous certains de ses aspects. Par exemple, l'absolu, la claire lumière absolue, pourrait être dite dans une métaphore, dans une analogie, comme la lumière blanche. Mais indéterminé et par là même inconcevable, mais qui est susceptible, en passant dans le prisme, d'être diffracté en le spectre de toutes les couleurs de notre univers chromatique, de l'ultraviolet à l'infrarouge, bleu, vert, jaune, rouge, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont autant de qualités de cette lumière blanche. Alors, nous sommes dans une analogie. Et dans celle-ci, la lumière indicible ne peut être perçue que dans le domaine relatif, c'est-à-dire diffracté, de ces colorations dans le prisme de l'esprit habituel, du mental. Donc, c'est ainsi que la déité, l'absolu, peut être à notre niveau perçu de différentes couleurs, avec différentes colorations, différentes qualités aussi, tonalités et qualités, colorations. Genasi, et particulièrement la qualité de bonté, d'amour, de compassion. Bonté, amour, compassion, non-duel, non-dualiste. Et c'est ce qu'exprime son mantra, Om Mani Padme Hum. Nous disions que le mantra a trois parties. Donc, début, fin et le milieu qui expriment la qualité. Nous allons y revenir. Le mantra le plus simple. Alors, en une syllabe, A. En deux, A O. En trois, Omarum. Om, Ong, et entre les deux, A. Omarum. Om Mahong, Om Mahong, Om Mahong, Om Mahong, Om Mahong, Om Mahong. Et Om Mahong se vit dans un souffle aussi. C'est ce que l'on nomme la respiration Vajra. Om est dans l'inspire et Hong est dans l'expire. Et entre les deux, il y a A. Om, Om, Hum, Om, Hum, Om, Hum, Om, Hum. C'est une des plus vieilles pratiques qui existent. On peut pareillement pratiquer Om Mani Padme Hum. Om inspire, Hum expire, et entre les deux, Mani Padme. Synchroniser la récitation du mantra et le souffle est une pratique très profonde. Est très puissante. Qui a les qualités de l'attention au souffle, de la bonté exprimée par l'état positif du mantra, les qualités même du mantra telle que nous les décrivions, et une dimension énergétique donc, très utile, très important. Maintenant, si l'on considère les trois parties Om, Mani Padmé et Hum. Om, et une syllabe, un son, syllabe germe, qui exprime l'éveil. L'éveil, un nom de et trine. L'éveil dans son unicité, dans sa non-dualité et dans ses trois dimensions. Trikaya. Certaines fois, l'on rend cet aspect ternaire de Om en l'écrivant A-U-M. Aum. Il y a le, on part du A, A, qui est vocalisé en haut, et qui continue, se termine en une vibration, une nasalisation. Ça peut être A-O-M ou A-U-M. Aum. Et Om exprime les trois dimensions de l'éveil. Les trois dimensions de l'état de présence. A est la dimension la plus fondamentale, omniprésente, l'ouverture absolue, sans centre ni périphérie, ce que l'on nomme le Dharmakaya. Oh. Oh. Et la tonalité qui habite cette ouverture, son énergie, Sambhogakaya, qui se manifeste dans la vibration, dans les manifestations d'aspects multiples et illimités. Nirmanakaya. Donc, Om exprime l'éveil, la non-dualité c'est l'origine de tout mantra qui procède ainsi de l'éveil. Et qu'est-ce qui procède de l'éveil? Mani Padmé ou Padmé. En sanskrit, Mani Padmé littéralement signifie joyau du lotus ou joyau dans le lotus. Donc, vous pouvez voir un lotus qui est ici symboliquement simplement une corolle ou un calice, une corolle calice ou un calice corolle. Et dedans, un joyau, un diamant, comme une boule de diamant ou une boule de cristal. Le lotus est le symbole de l'esprit éveillé. Et cette corolle calice exprime l'ouverture. L'ouverture de l'esprit éveillé comme un calice tout ouvert. Et l'intelligence de l'éveil. Ce lotus calice tout ouvert est un symbole féminin d'intelligence, de réceptivité. Et dans ce calice habite le joyau de l'éveil. Là, il y a même clairement des versions plus tantriques où le joyau peut être un vajra, avec le sens de l'union et toute une situation. Mais simplement, dans l'ouverture de l'esprit, subsiste le joyau de la compassion, le joyau de l'empathie, le joyau de l'amour, le joyau de la bonté non d'eux. Le joyau de l'éveil. Non. Le joyau du lotus, le joyau dans le lotus, et le joyau de l'éveil dans le pur esprit, ou le joyau de la compassion dans l'ouverture de l'intelligence non duelle. Le joyau du pur amour. Le joyau des quatre vertus illimitées, que sont l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Et Mani Padmé est le nom de Chenrezig. Son nom, sa nature, sa qualité, ce qu'il est, ce qu'il exprime. Et ensuite vient Hong. Et Hong, Hong, comme on le peut entendre, est une syllabe qui a une force. Hong, Hong, Hong. Et Hong est la syllabe de l'énergie éveillée, de l'action éveillée, de l'éveil qui se manifeste. L'on parle de Om, qui est l'éveil, on pourrait dire, universel dans ses qualités de Mani Padmé, de bonté du pur esprit, et Hong qui se manifeste, s'exprime. Il y a aussi dans le déroulement de Om Mani Padmé Hong la procession des trois corps, auquel cas Om est l'origine d'Dharmakaya, Mani Padmé et Sambhogakaya, l'énergie, et Hong est la manifestation, Nirmanakaya. Hong s'interprète comme les cinq gnoses. La graphie tibétaine de Hong a cinq parties. Là, il faudrait du papier, un crayon pour vous faire une démonstration, mais il y a simplement cinq parties qui correspondent symboliquement aux cinq gnoses, aux cinq dimensions de l'expérience éveillée. Gnose ayant le sens d'expérience éveillée, d'expérience non-duelle. Ces cinq gnoses, vous les retrouverez dans le tableau qui est sur le livre. Vous les trouverez aussi, ces cinq gnoses, dans les souhaits du Dzogchen, les souhaits de Samantabhadra. Elles sont, ces cinq gnoses, l'aspect pur, transformé, transmuté des cinq passions. Il y a la colère, si on peut partir de celle-ci, cette passion. La colère est, lorsqu'elle est libérée de toute saisie, de tout attachement, elle se transforme, se transmute en la gnose semblable au miroir. La gnose qui se connaît en elle-même comme en le miroir, le réfléchissant et le réfléchi ne sont pas deux. Et puis il y a la gnose de l'égalité, qui est l'aspect pur, transmuté de l'orgueil. Dans l'expérience immédiate de l'égalité fondamentale qui nous constitue tous en la nature de l'esprit. Puis il y a la gnose dite du discernement, qui est l'aspect transmuté du désir et de l'attachement. Habituellement, dans les passions duelles, l'on choisit par désir ou par attachement. Au niveau de cette gnose, il y a discernement, mais le discernement n'est pas fondé sur l'attachement ou le désir. Il a une intelligence immédiate. Puis la quatrième est dite la gnose tout accomplissante, qui est l'aspect transmuté de la jalousie ou de la rivalité. C'est la capacité à agir spontanément pour accomplir ce qui est à faire, non pas par besoin ou par compétition, rivalité, jalousie ou quoi que ce soit, mais d'une façon naturelle et spontanée. Et la cinquième est la gnose dite du domaine absolu, dharmadhatu, qui est l'aspect transmuté de l'ignorance ou de l'opacité. L'ignorance, l'opacité n'a pas de. Est indéterminée, mais dans une indétermination obscure, alors que la gnose du dharmadhatu est elle aussi indéterminée, mais dans une indétermination de lucidité, de clarté. Donc, hong est l'expression de ces cinq gnoses, c'est-à-dire des cinq dimensions de l'état éveillé et de l'activité éveillée. Donc, Om Mani Padme Hum exprime toutes ces qualités et les met en œuvre. Il est donc, comprenant tout cela, bon, utile et précieux de réciter et de vivre tout ce que Om Mani Padme Hum exprime et met en œuvre. Et s'il y a des remarques ou des questions sur tout ceci, s'il vous plaît.
Est-ce que vous pouvez réexpliquer l'aspect libéré de la colère? Parce que je n'arrive pas à faire de lien, en fait, entre la colère et le miroir.
Et la gnose semblable au miroir.
Voilà.
Quand on est en colère, il y a dans la colère une agression. Et il y a aussi dans la colère une fixation, il y a dans l'agression colérique une quelque chose de très incisif, de très mordant. Il y a de la gnaque. Incisif, mordant, tranchant. Et ce tranchant, ce mordant, cette incisivité libérée de la fixation et de l'énergie de saisie qui peut les habiter de façon passionnelle, deviennent des qualités de clarté, de précision. On peut être à ce moment-là clair, précis, avec une précision qui peut être pointilliste, très précise, mais dans une précision qui n'est pas agressive et qui est dans une intelligence réflexive. Alors, l'image du miroir est celui de l'intelligence réflexive. L'intelligence réflexive, c'est l'intelligence qui se comprend en elle-même. Ce n'est pas la réflexion au sens... C'est la réflexivité, c'est le retour sur soi-même. Donc, l'intelligence réflexive comprend en elle-même, se comprend en soi. Et c'est ce que symbolise le miroir. Un miroir dans lequel le teint et l'image ne sont pas deux. Le teint, la surface du miroir, étant le réfléchissant, et l'image qui se réfléchit, le réfléchi et le réfléchissant, le sujet et l'objet, le connaisseur et le connu ne sont pas deux, sont un. Et c'est cette gnose semblable au miroir. Et qui a cette qualité de précision Vajra. S'il vous plaît. Merci.
Est-ce que c'est correct, enfin, est-ce qu'on peut le faire, de réciter mentalement des manies en écoutant quelqu'un ?
Oui.
C'est-à-dire que l'esprit peut faire les deux en même temps et la qualité d'écoute est la même ?
Non.
Ah.
Si vous récitez mentalement des manies en entendant quelqu'un, vous serez plus dans son entente que dans son écoute, en quelque sorte. Vous entendez, mais d'une façon qui est beaucoup moins impliquée et beaucoup plus neutre.
Oui, mais...
Et ça peut être une façon d'écouter dans une neutralité bienveillante.
Mais la capacité de compréhension ou de cognition est la même, c'est la même acuité ou alors c'est confortable parce que finalement on est neutre, mais... Finalement, ça intègre moins bien.
On ne peut pas faire deux choses en même temps.
D'accord, merci.
On ne peut pas faire deux choses en même temps.
D'accord. Donc, s'il y a quelqu'un qui... Si je lui parle et qui récite le mantra, c'est que...
Ça dépend. C'est peut-être une façon de dire je vous aime ou d'avoir de vous envoyer des pensées positives et d'être dans une écoute bienveillante.
J'avais une question parce que justement je découvre ces méthodes qui finalement sont, j'ai l'impression, pour expérimenter l'amour, et j'entends donc qu'il y a un travail d'évocation, de visualisation de cette expérience, et ma question était, je serais vraiment curieux d'avoir votre réponse sur concrètement, donc sans le côté évocation, concrètement comment aimer. Merci.
Suivant les circonstances. On peut aimer le poulet. On peut aimer, je sais pas, le steak. On peut aimer les femmes. On peut aimer les hommes, on peut aimer le golf, on peut aimer... Il y a beaucoup de choses qu'on peut aimer. Le mot et la notion d'aimer est très, très vague, très passe-partout. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Alors, il y a... Il y a deux types d'amour. Il y a l'amour désir-attachement et l'amour de communion, de participation. Donc c'est important d'abord de faire cette distinction. C'est une façon de dire qu'il y a un amour névrotique et un amour éveillé. Donc, en reposant la question, je laisse de côté comment aimer de façon névrotique. Vous avez peut-être suffisamment d'expérience en la matière. Comment aimer d'une façon éveillée ? L'amour éveillé est dans l'empathie et la compassion. L'amour éveillé est dans la désaisie et la non-dualité, et dans une communion plus ou moins non-duelle. Moins il y a de dualité, plus il est de communion, plus il est d'union. Et une union, une communion, une participation qui est empathie, qui est compassion. Et d'une certaine façon, ça n'est pas, si vous dites comment aimer, ça n'est pas moi qui aime. Moi qui aime a tendance à être je veux ou je te veux ou je ne veux pas. Mais l'amour profond est dans le retrait de soi. dans un oubli de soi, dans cette abnégation d'empathie et de compassion profonde. Et cet amour se vit dans la pleine présence. C'est l'amour de Chenrezig qui se vit dans l'instant présent. La qualité de Chenrezig, l'état de Chenrezig, et la qualité et l'état de l'instant présent dans ce qu'il a de plus fondamental. Nous ne parlons pas du moment présent, mais de l'instantanéité présente, de l'instantanéité non-duel, immédiate de l'instant présent, dans lequel est une communion non-dualiste, qui est l'amour parfait et aussi l'intelligence parfaite. Alors comment le vivre? En pratiquant la pleine présence, en pratiquant Chenrezig. Ça me fait penser qu'hier, vous vous interrogiez pour savoir si c'était un enseignement du Bouddha. Il y a différents enseignements du Bouddha, différentes paroles du Bouddha. Il y a les paroles que le Bouddha a dites, il y a les paroles que le Bouddha a inspirées et celles qu'il a validées. C'est une tripartition classique. Et de ces trois modes, il y a un dénominateur commun qui est ce que l'on nomme les quatre caractéristiques de la parole du Bouddha, ou les quatre caractéristiques d'un enseignement du Bouddha. Donc, si l'on veut savoir, s'agit-il d'un enseignement du Bouddha? S'agit-il d'un enseignement bouddhiste? Est-ce que cela est parole de Bouddha? Est-ce que cela est enseignement du Dharma? Quatre critères. En tibétain, on les nomme les karta dichayashi, les quatre sceaux ou les quatre critères de la parole ou d'un enseignement du Bouddha. Le premier, en tibétain, est Sache Tamche Mitakpao. Tu Dujie Tamche Mitakpao. Pardon. Tout composé est impermanent. Ce sont des choses qui méritent d'être considérées attentivement. Tout ce qui est composé se décompose. Ça peut sembler trivial. Tout composite est soumis à la décomposition et par là même est transitoire, impermanent. Donc, c'est l'enseignement de l'impermanence de tout ce qui existe. C'est ainsi que le monde est impermanent, c'est ainsi que nous sommes impermanents. Deuxième principe est Sache Tamche Dungaluao, c'est-à-dire toute saisie et souffrance. Il y a un corrélat ou une équivalence qui est posée entre la saisie et la souffrance. Et cela se développe dans les quatre nobles réalités, le premier serment du Bouddha. Mais la saisie, que ce soit la saisie passionnelle ou que ce soit la saisie cognitive, que ce soit les passions ou les illusions, toutes ces saisies sont source de souffrance. La notion de saisie est délicate. L'autre jour, nous en parlions. Pour traduire en anglais saisie, il y a clinging, seizing, grasping, holding. On fait déjà quatre. Et en français, on parle de dessaisie, de lâcher de la saisie, d'abandon de la saisie. Si l'on comprend que toute saisie est souffrance, le corollaire est que la dessaisie est libération de la souffrance. Donc, tout ce qui va libérer de la saisie va libérer de la souffrance et par là même amener dans la libération de la souffrance le bien-être et le bonheur. Très important. Troisième caractéristique de la parole ou de l'enseignement d'un Bouddha, Chötamche Tongni Dhammepao. Tout phénomène est vide, vide de soi, où tout phénomène est vide, c'est-à-dire dépourvu de soi. On entend par soi entité. En aucun phénomène, il n'est d'entité. Et c'est là quelque chose d'absolument extraordinaire. Surtout si jamais on comprend entité comme être. En toute chose, il n'est d'être. Mais bon, ça peut ouvrir à beaucoup de discussions. Il n'y a en toute chose aucune entité. Entité signifiant quelque chose qui serait un en soi, de soi par soi, de façon autonome, intrinsèque, inhérente. Et c'est une façon de dire, corollairement, que toutes choses sont interdépendantes. Il n'y a aucune chose qui soit indépendante, c'est-à-dire que toutes choses sont interdépendantes. C'est l'affirmation de l'interdépendance de toutes choses ou de l'interdépendance universelle. Et le quatrième sceau est Nyanghenle Depa Shiwao, au-delà de la souffrance, est une paix. Donc dans le deuxième principe, on a vu la relation entre la souffrance et la saisie. Et au-delà de la souffrance, au-delà de la saisie qui origine la souffrance, il est une paix. Au-delà de la maladie, est une santé. Ou dit autrement, on est sain avant d'être malade. Et quand on a fini d'être malade, on est sain. On peut guérir de la maladie de la saisie, et accéder à la santé fondamentale. Donc, une fois qu'on a défini et qu'on a compris ces quatre caractéristiques d'un enseignement du Bouddha, il faut se demander, eu égard à tel qu'enseignement que ce soit, est-ce que cet enseignement correspond à ces quatre caractéristiques, ou est-ce que cet enseignement est un moyen de réaliser ces quatre caractéristiques. Voilà, et c'est vrai pour tous les enseignements. Donc, c'est pas tant une question historique. L'historicité là-dedans peut être vite très confuse et très approximative, incertaine. Mais dans le fond, d'examiner avec ces quatre critères. Et tout ce qui est bien dit, comme on dit, tout ce qui est bien dit conformément à ces quatre critères est parole de Bouddha. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques?
Je ne sais pas si on dispose de suffisamment de temps, mais il y a plusieurs personnes qui aimeraient que vous fassiez un rappel sur les différentes étapes du sadhana en revoyant ce qui se passe à chacune d'elles, à la génération, la récitation du mantra, puis la dissolution. Ce n'est pas encore tout à fait clair.
Ça va se faire demain, ça va se faire après-demain, et d'une façon très concise, dans la première phase du principal de la pratique, l'on évoque la présence de Chenrezig. Et l'on entre dans la présence de Chenrezig. On évoque la présence de Chenrezig et la présence de Chenrezig entre en nous. Et à ce moment-là, l'on devient Chenrezig. On se vit comme Chenrezig, ou plus exactement, la bonté qui est celle de Chenrezig vit en nous et elle est ce qui nous anime. Donc, ça c'est la première phase qui est une phase relationnelle et encore d'une certaine façon conceptuelle, de différentes façons conceptuelles. Et la deuxième phase de la méditation est non conceptuelle et elle nous fait entrer dans la présence de Chenrezig sur un mode non conceptuel, non dualiste, elle nous fait entrer dans la bonté non duelle de l'état d'éveil qui est l'immense bonté de Chenrezig. L'immense bonté de l'expérience du pur esprit. L'immense bonté, l'immense compassion qui est la manifestation de l'état de Mahamudra ou de Dzogchen. Mais nous y reviendrons. Et ces deux prochains jours, puisque nous allons alterner, il y aura deux autres enseignements que je ferai. Je choisirai, ou j'ai choisi, de les faire à partir des deux addendas de Jamdon Trungpa Rinpoche, les deux addendas qu'il a fait au sadhana, qui expliquent la phase de récitation, justement, et la phase silencieuse, la phase de perfection. Donc, ce sera l'occasion de revenir là-dessus. Je vous propose...
Bonjour. Rapidement, est-ce que l'intention d'amour de envers le Mani Padme Hum Chenrezi a à voir, enfin, je pense que oui, l'intention d'amour d'évoquer Chenrezi, de le vivre, a à voir avec dans le Lojong que vous avez, sur lequel vous avez enseigné en avril, vous avez parlé du oui. Et j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre le oui, oui, j'accepte les choses, et l'amour de Chenrezi.
Tout à fait. Et l'amour de Chenrezi et l'amour de Lojong, l'amour de Tonglen, et l'amour qui vient dans la qualité de communion, de participation, qui se développe en pratiquant Tonglen. Et la pratique de Chenrezi est une façon particulière même de vivre Tonglen en étant Chenrezi. Et c'est une amplification de la pratique de Tonglen, en quelque sorte. Petit moment de pause.
Mani,